Chapitre 8. Il y a 15 jours, nous avons appris la mort presque subite de ma vieille gouvernante, et ce douloureux événement a été le prélude d'une nouvelle phase de ma vie intime. Nous nous sommes transportés à Aumont, et ma tante, voyant ma peine, est restée 8 jours avec moi dans ma maison, où des arrangements devaient être pris. André est reparti sur l'assurance que sa mère ne mourrait pas de peur à Aumont, où elle a fait coucher le fermier, ses deux filles et un domestique, afin de repousser, la nuit, l'attaque des malfaiteurs. Après quelques terreurs, elle s'était, dans le jour, aguerrie avec les dangers sans nombre qui l'environnaient, et devant ma tristesse trop légitime, s'oubliait pour me distraire. De mon côté, je m'efforçais de ne pas m'apesantir sur une perte qui m'est très sensible, et voulais encore moins lui laisser soupçonner la préoccupation secrète de mon esprit. Une lettre de Mademoiselle Perrin m'avait été remise confidentiellement par le curé. Elle portait en suscription « À lire 5 jours après ma mort ». Croyait-elle donc que 5 jours suffiraient pour effacer de ma mémoire le souvenir de son affection ? La vie reprend-elle si vite son cours ? Telle était sa pensée, peut-être, puisque sa lettre me rejetait d'une façon si particulière dans ce cours que rien n'arrête. Ma chère enfant, je veux, avant de partir, vous mettre en garde contre l'inexpérience de la jeunesse. Croyez-moi, ma chérie, si M. d'Arlancey vous demandait en mariage, ne donnez pas précipitamment une réponse négative, ne suivez pas un mouvement d'antipathie irréfléchie. Il a les qualités qui rendraient heureuse ma chère enfant. C'était tout, et ce tout, dicté par un sentiment touchant, me plongeait non seulement dans l'étonnement, mais encore dans un trouble singulier. Peut-être cette démarche est-elle une imprudence que, jadis, l'affection qu'il a inspirée n'eût pas commise. Peut-être, au contraire, les événements prouveront-ils qu'il était sage de me prémunir contre un mouvement irréfléchi. Je suis allé méditer la question sous les peupliers dont l'agitation musicale s'associe à tout mon passé et je me suis livré à une enquête détaillée sur moi-même. La vie intense qui est en moi ne gêne personne puisque tout se passe en moi-même et que je sais me dominer. Mon caractère est pacifique, je ne demande qu'à vivre en paix avec tout le monde. Or, il semble que la vue de mon cousin, ses paroles, son air, m'irritent, m'exaspèrent, et je ne sais quel diable me poussant, me porte à outrepasser ma pensée lorsque je lui réponds. Serait-ce un cri de l'âme vers la justice ? Serait-ce plutôt l'irritation de sentir que je ne lui plais pas ? Serait-ce le désir sourd et profond d'être aimé de lui ? Adossé à un arbre, je remarquai vaguement la mousse qui couvrait les racines surgissant de terre, les boutons d'or attardés et les pâquerettes vivaces. Quoi, ma vieille gouvernante avait-elle donc aperçu dans mes lettres une lueur devenue pour elle une lumière ? Avait-elle deviné ? Deviné quoi ? Les feuilles des peupliers chantaient, et à leur mélodie, mon cœur répondait par un battement inconnu. Qu'adviendra-t-il, me disais-je ? Et n'est-ce pas bien imprudent d'avoir ouvert la porte à une fausse espérance ? Je m'arrêtai, effrayé du mot que je venais de prononcer, effrayé de la marche trop rapide suivie par ma pensée. Comme je me retournais, j'aperçus Madame d'Arlancey qui venait à moi en s'arrêtant de temps à autre subitement quand une bête grosse ou petite paraissait. Elle passait alors rapidement de l'autre côté de l'avenue, sans rien perdre de sa grâce dans ce voyage en zigzag. « De quoi avez-vous peur, ma chère tante ? » dis-je en m'avançant vers elle. « Vous êtes pâle. »« J'ai vu un crapaud. Je crois même qu'il m'a poursuivi. »« Il a eu plus peur que vous, » dis-je en riant. Elle oublia ses émotions pour me regarder avec attention. « Qu'est-ce qu'il y a, Jacqueline ? Tu as changé de physionomie. »« Changé de physionomie ? » répétai-je. Ma tante passa en souriant son bras sous le mien. « Ta pensée, ou pour mieux dire ton cœur, Jacqueline, est arrivée à un tournant, je le vois. »« Quelle idée ! » m'écriai-je en rougissant. « Je m'y connais, » répondit simplement ma tante. « Quel est l'objet ? » « À quoi pensez-vous ? » dis-je d'un ton mécontent. « Tu as raison, il n'y a pas encore de positif, mais seulement des aperçus qui t'émeuvent. » Après quoi, à ma grande satisfaction, elle parla d'autre chose. En me promenant dans ma maison, en y faisant revivre des ombres chéries, je m'aperçus qu'une figure vivante les accompagnait partout. Je m'aperçus que cette figure de mathématicien prononçait des mots que j'attendais pour être heureuse. Ce n'était qu'un rêve, sans doute, mais il enveloppait la vieille châtellenie d'une lumière brillante et douce. Il ravivait, pendant que je m'abandonnais à mes songes dans l'atelier de mon père, il ravivait un amour conjugal qui avait vécu à Aumont dans la plénitude d'une douceur dont le souvenir était pour moi si vivant. En revenant au Croisic, quelque chose me parut changer et je regardais André comme si je le découvrais. Je me sentais amolli, quelque peu attendri et toute disposée à supporter ses reproches injustes et ses idées saugrenues, mais bien folle et qui se fit aux dispositions. En écoutant André causer avec Madame d'Arlancé, qui s'intéresse à tous les travaux de son fils, je pense au dédain dissimulé de ce travailleur pour les facultés féminines. Et cependant, que sont tous les ponts, tous les chemins de fer, relativement à un battement de cœur humain, à l'élan de l'âme vers le beau et le bien? N'est-ce pas précisément parce que les femmes ne s'occupent pas de science qu'elles exercent leurs facultés à observer, sentir, aimer et manifester leurs sentiments affectueux dans les détails de leur foyer? Est-ce une preuve de leur non-intelligence? C'est simplement le maintien de l'ordre que la nature a voulu. C'est la direction de leurs facultés vers un autre courant, et ce courant est aussi nécessaire à l'homme que celui des hautes sphères scientifiques et intellectuelles. André, assurément, n'a jamais pensé une demi-seconde que les femmes dussent s'occuper de science ou de sujets transcendants, mais il les dédaigne précisément parce que leurs facultés ne se prêtent pas à ce genre de supériorité. Il répète volontiers le mot d'un chimiste. « Grand Dieu, disait cet homme de sens, que deviendrais-je s'il me fallait, en rentrant chez moi, entendre ma femme me parler d'azote et de carbone ?» C'était l'expression du vrai et la condamnation de certaines prétentions féminines, telle est la vie d'André. Mais alors je m'y perds. Cet être supérieur a naturellement l'horreur de tout ce qui ressemble de près ou de loin au féminisme, si par ce mot on entend l'empiètement de la femme sur un terrain que les hommes, à bon droit, considèrent comme le leur. À ce seul mot de féminisme, il voit rouge et aussitôt étranglerait volontiers toute la gent féminine. Je mets au défi, quiconque voudra soutenir ce défi, de découvrir un groupe de 100 femmes ayant des idées générales. À cela, comme il a peut-être raison, je n'ai rien répondu, mon expérience n'allant pas jusqu'à pouvoir juger la question. Mais je lançais mon attaque sur un autre point. « Vous me paraissez souvent fort inconséquent en parlant de la femme, car, pour que vous jugiez agréable votre maison, il faut rencontrer une juste harmonie dans son arrangement. Or, toute harmonie, fût-elle celle des casseroles, est une preuve d'intelligence. »« Vous parlez d'or, Jacqueline. »« Je le crois, » répondis-je modestement. « Ah ah ! Vous en ferez l'expérience, » affirmai-je. « Jamais je ne ferai l'expérience dont vous parlez. Je ne veux pas d'une femme qui me parlerait d'harmonie à propos... » Il s'interrompit avec un grand geste indigné. « À propos de casserole, elle aurait grand tort de n'en pas parler, » répliquai-je. « Et si, dans la vie pratique, elle ne connaît pas le sens de cette expression, je vous plains. » « Je vous dispense de me plaindre. Je ne veux être plaint par personne, » me dit-il rageusement. Je tombai des nues. À qui en avait-il? Pourquoi cette rage subite qui, à mon sens, ne pouvait être provoquée par mes réponses? On eût dit qu'il partait en guerre en faveur d'une cause invisible dont il portait belliqueusement le drapeau. Vous seriez cependant bien à plaindre, insistai-je avec conviction. J'éprouvais le désir de le piquer, de le harceler et, si j'avais pu, de le couper en petits morceaux. Ma tante n'étant pas là pour se mettre entre nous, les choses menaçaient de tourner à l'orage si la physionomie d'André n'était pas trompeuse. Il s'adossa à la cheminée et, se dominant, commença avec pompe. « C'est mon devoir, Jacqueline, de vous dire ma manière de voir sur la façon dont vous parlez, raisonnez. »« Marchez, courez, travaillez, » interrompis-je tranquillement. Jacqueline! S'écria-t-il d'une voix de centaure. Eh bien? En vérité, vous mettez ma patience à une trop rude épreuve. D'autant que je ne la crois pas vertu dominante chez vous. Mais, et moi, que devrais-je dire? Vous, vous devez écouter de bons et sages conseils, je vous l'ai déjà dit. Permettez, permettez, je suis élevé, vous l'oubliez trop. Mais, ajoutai-je aussitôt, je ne demande qu'à vivre en paix avec vous, seulement... Sans daigner répondre, il se jeta dans un fauteuil et affecta de prendre un livre. Mais il ne lisait rien. Madame d'Arlancey arriva pour nous voir, boudant tous les deux, lui rouge comme un coq, moi de nuances cramoisies, et nous lançant de temps en temps des regards fulgurants. Pauvre mademoiselle, elle avait rêvé, loin de la réalité, dans la châtellenie où j'avais promené moi-même je ne sais quelle ébauche de bonheur. « Eh bien, qu'avez-vous? Qu'y a-t-il ? » demanda ma tante. « Il y a que c'est insoutenable !» s'écria André en se dressant tout d'une pièce, comme un bonhomme à ressort. « Quoi donc ? » ?»« L'insolence de Jacqueline !»« Vous voulez dire le pédantisme d'André ? » m'écriai-je exaspéré. « Allons, allons, c'est par trop ridicule, dit ma tante. Vous vous querellez comme deux enfants. C'est indigne de l'un et de l'autre. » « Vous avez raison, ma chère tante, » dis-je aussitôt, et j'allais tendre la main à André. « Je regrette d'avoir dit un mot qui ait pu vous contrarier, mon cher cousin. » Ce mentor, malgré son amour de Lix, et, après tout, très sensible à un élan venant du cœur, sans omettre la satisfaction de voir céder un adversaire. Toutefois, il ne laissa pas percer cette dernière sensation et me donna une franche poignée de main en disant « Il est certain que nous sommes jeunes l'un et l'autre. » Mais aussitôt, cet aveu le remplit de dépit et il se tourna un peu brusquement vers sa mère qui lui disait « André, je reçois une lettre des Chélanes. Ils arrivent aujourd'hui. »« Enfin » dit-il tout joyeux. « Les Chélanes, » dis-je en cherchant dans mes souvenirs. « Nous t'en avons parlé, c'est une famille qui habite Angers et possède le chalet que tu trouves si joli. »« Oh oui, je sais, il y a une fille, je crois. »« Oui, elle est charmante, tu auras beaucoup de plaisir à la voir. » Mais je me soucie fort peu de Mademoiselle Duchélane. Aussi allais-je m'accouder à la fenêtre de ma chambre pour me livrer à ma chère flânerie. Tout en observant les lents mouvements des bateaux de pêche qui rentraient dans le port, mon esprit dolent cherchait à comprendre pourquoi nous nous battons toujours, André et moi. Comme tout m'est indifférent au dehors, c'est en moi, en mon moi intime, en celui de mon cousin, que se joue désormais ma vie entière. Oh, mon ingénieur! Maintenant j'aime ces mathématiques, ces ponts, ces tracés. Si mes facultés le voulaient, je ferai des racines carrées jour et nuit pour me mettre à la hauteur d'un génie qui ne sera jamais le mien.